Bonjour, l'émission La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Alors Claire de Mange, voilà. Alors je voulais simplement vous signaler que après donc une série d'émissions consacrées à Shakib Fadli, donc le boxeur slammer, je vais reprendre le cours des émissions qui a été consacré à Chantal Dupuis-Dunier. Alors bien entendu, ça va faire un gros changement de style, mais finalement donc la poésie est multiple et variée. Et je pense que ça, tout ça, ça va bien l'illustrer. Hein. Donc Chantal Dupuis-Dunier nous avait accompagnés donc tout le mois de novembre, décembre aussi, avec son recueil Éphéméride et 1000 grues de papier. Et nous nous en étions arrêtés donc à 1000 grues de papier que je vais reprendre donc là où je m'en étais arrêtée, c'est-à-dire dans la partie finale, hein, où l'on va vers la fin de Sadako, si on reprend donc le livre, cette petite fille leucémique après la bombe de Hiroshima, et auquel tout le Japon a consacré des mémorials. Donc voilà. Je tenais aussi à vous dire, avant de commencer donc l'étude de 1000 grues de papier, qu'il y aura un spectacle organisé par le Cercle Amélie Murat, Alternative Poésie et le Pôle Artistique d'Issoire, le dimanche 2 février, dans les salles Lyon, donc juste à côté de la basilique d'Issoire, un spectacle consacré aux femmes qui s'appelle Femmes en scène, avec des textes que nous avons écrits, des textes d'auteurs que nous avons pris, mais bien entendu les hommes sont invités, hein, même il y aura une petite surprise à la fin, et vous verrez donc il faut vivre en bon entendement entre hommes et femmes, mais j'avais envie de nous faire parler, nous les femmes, voilà. Donc par la voix de la poésie. Alors écoutez, voilà cette petite annonce pour le 2 février, donc dans les salles Élion à Issoire. En parallèle, alors en résonance, j'ai oublié de le dire, avec une exposition de peinture, donc aussi une femme. Donc venez voir, je crois que ça vaut vraiment le coup, une peinture très spontanée. Donc on vous attend le 2 février. Alors je vais reprendre le fil donc de Sadako. Donc on arrive à la fin du recueil, et donc plus on avance vers la fin, plus on sent la tension monter, puisque Sadako, on le sait, va mourir. Alors cette descente se confirme, et alors que jusqu'à présent Chantal Dupuis-Dunier insistait sur la nécessité de persister, de se battre, de faire face, et bien là va apparaître le mot résignation, le mot renoncer, donc il sort d'une forme d'abandon, le mot glace, hein, mais vous l'écrivez quand même. Donc page 328, poème 617, renoncer, ce verbe comporte en son ventre l'aveu du non-sens et un entrelac d'épines. À sa vue se cabrent les étalons et les poèmes. Donc ça, c'est pour reprendre aussi ce que vous disiez, c'est que la poésie était là pour demeurer, pour persister, et là elle semble donc impuissante face à la mort qui s'annonce. Donc cela, la mort nie l'écriture elle-même, et on s'éloigne vraiment du « Je persiste » de William Faulkner, que j'avais présenté donc en novembre. Et vous vous confrontez, et vous nous confrontez à l'incertitude de notre destin. Et vous me disiez lors d'une entrevue que nous étions comme des boules dans un jeu de flipper. Nous savons que la boule tombera dans le trou, mais quand, où, on ne sait pas. Alors justement, il y a un petit poème, donc plus loin, donc le numéro 621, journée 621, où on sent bien que finalement nous sommes comme des dés dans un jeu de hasard. Sur la marelle des pages, je pousse le palais de l'œuvre à petits coups d'incertitude, question après question. Donc c'est vraiment maintenant, on entre dans la phase chronique d'une mort annoncée. Alors journée 625, cette vague qui se forme dans un angle du ciel prophétise un orage au-dessus de nos têtes, le flot blanc des grues. Donc le flot a beau être blanc, l'orage est annoncé. 626, cristal des éclairs sur leurs ailes blessées, les oiseaux tentent de poursuivre le voyage. Donc il est bien entendu qu'avec le mot « tente », on sent que peut-être ils n'y arriveront pas et peut-être que nous serons confrontés donc, au dernier voyage. Alors j'ai passé un extrait encore de Carl Jenkins, du Stabat Mater de Carl Jenkins, que je vais réutiliser dans d'autres émissions, je le trouve extrêmement beau, donc, un morceau qui s'appelle « Lament », « Lamentation ».
Oh.
les grues elles-mêmes vont participer à cette chute. Et vous allez le constater après de façon très pragmatique, comme dans un contrat qui s'achève. Journée 628. Écartant les cendres, je vole, ironie et insolence au bec. Seule philosophie qui vaille sur cette terre dont nous ne sommes que les locataires. Ce qui implique aussi que de cette vie, nous ne sommes que les locataires. Et un jour, eh bien, le bail prendra fin. Donc, je continue. Il va y avoir confirmation de l'abandon et de la résignation. Journée 629. Chaque jour, le silence de la chambre solitaire se referme comme l'air sur l'écume légère des gestes. L'enfant ne regarde plus par la croisée, ne s'attarde plus au mouvement d'une branche de prunier, aux variations de la lumière. Ses doigts volent et froissent le papier qui crie tel un oiseau déchiré. Donc là, il y a cette image effectivement de la fenêtre qu'on n'ouvre plus, de la fenêtre par laquelle on ne regarde plus. Et bien, donc le papier se froisse. Et on a, en même temps, on a ces grues qui tentent de poursuivre le voyage et qui ne le poursuivront peut-être plus. Donc tout se mêle et s'entremêle, hein, et tout conduit au non-sens. Et malgré la tentative de trouver un sens, hein, la vie s'échappe. Un jour de plus, un oiseau de plus, plié dans une poche de sang, donner sens à une respiration qui s'amenuise, à ce voile apparu récemment. On a l'impression que maintenant, le sort est jeté. Les grues ne sont plus que des grues en papier, hein, et aussi bien pliées soient-elles, elles sont impuissantes. Elles sont froissées aussi. Alors, journée 635, je tourne les pages. Il pleut des grues d'origami sur la couverture en coton d'un lit d'hôpital, au long des couloirs blancs, dans les paumes ouvertes du visiteur. Il pleut de vrais oiseaux dans les rêves. Dans les rêves, on parviendrait à raconter jusqu'à 1000, à aller jusqu'au bout du voyage. Dans les rêves, on pourrait. Donc là, on est retransporté dans la réalité de Sadako, hein, qui n'a pas pu finir de plier ses grues. Hein. Et donc, c'est la poésie qui va finir peut-être de les plier. Donc, ces grues sont impuissantes. Et comme vous le dites, les vrais oiseaux, c'est dans les rêves. Et il y a vraiment un décrochage à ce moment-là, puisque vous dites, hein, dans les rêves, on pourrait. Donc, c'est bien la constatation que le présent, hein, dans la vie, on ne peut pas. Alors, il semble qu'à ce moment-là, vous vous effaciez. Je parle à Chantal Dupuy-Dugny, donc le poète s'efface. Vous quittez la scène, comme si votre histoire ne pouvait plus suivre celle de Sadako. Vous écrivez, m'avez-vous dit, pour recevoir une réponse. Mais là, il n'y a pas de réponse. La seule réponse est la mort. Et vous ne pouvez plus dialoguer avec elle. Il ne vous en reste plus le temps, ni la force. Et les poèmes se font plus courts, plus haletants. Journée 638. Humble la vallée. Le vent glisse sur les monts. Saison dénudée. Donc là, c'est vraiment une respiration qui devient haletante, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je crois que je vais peut-être le relire aussi. Oui, Sadako a du mal à trouver sa respiration. Voilà. Alors, on va peut-être écouter un petit extrait encore de Jenkins, hein, qui s'appelle « Are you lost in darkness ?» Donc, toujours tiré du Stabat Mater. Donc c'est vraiment les derniers moments et le poète prononce le mot dernier. Journée 639, l'enfant galope sur un coursier de papier en direction de Samarcande. Dans un poème, Sadako plie sa une dernière grue. Donc on s'achemine aussi donc vers la mort, vers le mot jusque-là évité, dernier. On s'achemine aussi vers la souffrance, journée 640. Les doigts de l'enfant lui font mal. Elle repose ses bras sur le drap. Une grande aile passe devant ses yeux. Elle se tourne vers le mur et se tait. Donc là, il y a le refus finalement de continuer, le refus de poursuivre, puisqu'elle ne regarde même plus par la fenêtre. Elle ne regarde même plus les grues. Donc je continue. On s'achemine aussi vers l'immobilité, puisqu'on dit « elle repose ses bras sur le drap ». Vers l'obscurité, puisque une grande aile passe devant ses yeux, mais elle ne va pas la regarder. Vers l'indifférence et la résignation, puisqu'elle se tourne vers le mur et se tait. Toute la nature, d'ailleurs, participe à ce renoncement. Journée 641, quelqu'un, au matin, abat un arbre pour le cercueil d'une fillette. Là, je pense que Chantal Dupuy-Dunier a pris le parti du réalisme, de la réalité, de ne plus mâcher ses mots, de regarder, et bien peut-être, la mort en face, justement. Donc la chute, l'arbre abattu. Journée 642, léger. Des papiers de soie s'envolent vers d'autres mains. Donc là, on a l'impression qu'on va passer la main, hein, vers d'autres mains. Sadako va passer la main. La sienne ne peut plus contenir son destin. Donc il y a une sorte de constat de fin d'espérance. Aujourd'hui, journée 643, la grue cendrée a détruit son nid. Donc là, c'est la fin d'un cycle. Alors, seuls, bien sûr, les écrits restent, mais ils semblent bien dérisoires. Donc 644, un petit tas de plumes blanches et des vers. Alors Chantal Dupuy-Dunier avait souligné donc le jeu de mots, bien entendu, il reste des écrits, des vers, mais ces vers c'est peut-être aussi ce qui nous mange tous, donc lorsque nous sommes morts, lorsque nous mourons. Donc les grues de papier n'ont pu honorer l'exigence de leur symbole, la longévité, puisque Sadako va mourir à l'âge de 12 ans. Donc on repasse encore un petit extrait du Stabat Mater de Jenkins qui s'appelle « Incantation ». Mais bien sûr, cette chute, cette fin était anticipée. Hein. Donc si je relis le poème de la journée 312-313, « Autour du lit d'hôpital, des chutes de papier sur les draps du lit, des chutes de papier dans les replis de la chemise, des chutes de papier, neige d'origami, elle-même, chute. » Donc ce moment était attendu, était prévu, était anticipé hein, tout au long du recueil, même s'il y a quand même toujours tentative de ne pas renoncer. Alors là aussi, cela se produira une nuit, au milieu de la nuit. Ils rabattront ma couverture, ouvriront la fenêtre, ils obstrueront mes orifices. Mais il semble qu'il n'y a pas de révolte, hein, puisqu'à la fin, elle constate donc un petit tas de plumes blanches et des vers. C'est tout ce qu'il n'y a pas à avoir, il n'y a pas à se rebeller. C'est comme un petit peu la constatation du destin. On ne peut pas s'y opposer. Et notre poète, Chantal Dupuy-Dunier, elle, n'arrête pas et continue d'écrire. Seule peut-être, ses écrits restent. Elle essaye d'imposer donc sa vie à travers la poésie. Alors je relis, il faut que je retrouve la page. Donc j'ai déjà lu, mais c'est pour donc bien donc entériner cette démarche. Je couds le poème à petits points, rapièce d'ancienne récitation. Le pivert frappe toujours sa poutre et moi, j'écris toujours. Donc j'écris toujours, mais il semble que dans ce recueil, hein, Chantal Dupuis-Dunier a frisé le renoncement et failli basculer face à tant d'injustices, face à la mort de cette petite fille. Donc elle a failli basculer, même si, alors je vais relire quelques extraits, même si, alors je lis le poème, attendez, voilà que je retrouve le poème. Même si, première dissertation, vivre c'est choisir. Choisir c'est renoncer, renoncer c'est sacrifier. Plus tard, j'ai compris le sujet. Aussi, notre extrait, 244, j'en ai 244, elle écrit « Je n'aime que les arbres et les forêts intègres, les merveilleuses forêts qui passent au fil du ciel. » Donc même si, elle regarde encore la nature, éternelle, elle a failli basculer. Même si, alors notre poème, journée 315, objet tranchant, le poème, même si parfois, même si elle, elle sait qu'elle essaie de lutter avec ses écrits. Bon, elle a failli basculer. Même si, alors, autre petit extrait, 378, j'en ai 378, il faut que je tourne les pages. 378, même si la rivière ne voit jamais le dessus du pont, le pont ne connaît d'elle qu'un fragment. Donc il y aura toujours quand même, c'est sûr, donc l'inévitable, l'inexorable. Et de toute façon, hein, autant se dire qu'elle est belle la mort, hein, pour ne pas avoir à trop se rebeller contre elle. Un dernier poème. Une araignée tisse la lumière à l'angle d'une fenêtre. Lumière carnassière, dernier vol d'une mouche. Les pères descendent les marches de soie jusqu'à sa proie qui vibre. La mort est belle ce matin. Donc autant l'écrire, hein, pour c'est peut-être la seule façon de lutter contre elle. Alors donc je vais terminer donc cette émission, donc non peut-être pas l'émission, mais donc ce recueil sur ces très belles paroles, hein. La mort est belle ce matin, même si elle est inévitable. Autant se le dire. Hein. Et je vais en profiter, donc j'en avais parlé à Chantal Dupuis-Dunier, pour vous lire donc deux poèmes d'auteur sur la mort d'un enfant. Et finalement, on n'en trouve pas tellement. Bon, il y a le fameux poème dont Chantal Dupuis-Dunier disait que c'était un des plus beaux de la littérature française. Donc, demain, dès l'aube, je partirai. Mais je vais vous lire un poème d'André Chénier et un poème de Marie-Noël, un poétesse d'Auxerre, hein, qui a écrit aussi de très très belles choses sur les enfants. Alors, d'abord, André Chénier, sur la mort d'un enfant. L'innocente victime, au terrestre séjour, n'a vu que le printemps qui lui donna le jour. Rien n'est resté de lui qu'un nom, un vain nuage, un souvenir, un songe, une invisible image. Adieu, fragile enfant, échappé de nos bras. Adieu, dans la maison d'où l'on ne revient pas. Nous ne te verrons plus quand, de moissons couvertes, la campagne d'été rend la ville déserte. Dans l'enclos paternel, nous ne te verrons plus. De tes pieds, de tes mains, de tes flancs demi-nus, presser l'herbe et les fleurs, dont les nymphes de Seine couronnent tous les ans les coteaux de Lucienne. L'axe de l'humble char à tes jeux destinés, par de fidèles mains avec toi promenées, ne sillonnera plus les prés et le rivage. Tes regards, ton murmure, obscur et doux langage, n'inquiéteront plus nos soins officieux. Nous ne recevrons plus avec des cris joyeux les efforts impuissants de ta bouche vermeille à bégayer les sons offerts à ton oreille. Adieu, dans la demeure où nous nous suivrons tous, où ta mère déjà tourne ses yeux jaloux. Alors là, l'accent est bien mis sur la mort d'un enfant. Hein. Alors je pense qu'avec Chantal Dupuis-Dunier, eh bien, elle a toujours cette sensation que grâce à ses écrits, eh bien, elle parviendra peut-être à surmonter le destin en disant justement peut-être « La mort est belle ce matin ». Alors autre poème de Marie-Noël, « Cortège pour l'enfant mort ». L'enfant frêle qui m'était né, tantôt nous l'avons promené, l'avons sorti de la maison au gai soleil de la saison. L'avons conduit en mai nouveau, le long des champs joyeux et beaux. Au bourg, avec tous nos amis, l'avons porté tout endormi. Mais en vain, le long du chemin, on sonnait les cloches, en vain, tant il était ensommeillé, tant qu'il ne s'est pas réveillé. Au milieu des gens amassés, quand sur la place il a passé. D'autres que moi, c'est aujourd'hui, à l'église, ont pris soin de lui. C'est le bedeau qu'il a bordé dans son drap blanc d'argent brodé. C'est le curé qui l'a chanté, avec ses chantres à côté. C'est le dernier qui l'a touché, le fossoyeur qui l'a couché, dans un berceau très creux, très bas, pour que le vent n'y souffle pas, et jeter la terre sur lui, pour le couvrir pendant la nuit. Pour lui, ce que chacun pouvait, tant qu'il a pu, chacun l'a fait. Pour le bercer, le bénir bien et le cacher au mal qui vient. Chacun l'a fait et maintenant, chacun le laisse au mal venant. Allez-vous-en, allez-vous-en! La sombre heure arrive à présent. Le soir tombe, allez, partez tous! Vos petits ont besoin de vous. Rentrez chez vous et grand merci, mais il faut que je reste ici. Avec le mien, j'attends le soir, j'attends le froid, j'attends le noir. Car j'ai peur que ce lit profond ne soit pas sûr, ne soit pas bon. Et j'attends dans l'ombre, j'attends. Pour savoir s'il pleure dedans. Je trouve très beau ce poème, très émouvant. Il y a beaucoup plus de révolte que dans Mille grues de papier où il y a, je pense, une acceptation littéraire et une fortitude liée à l'écriture, comme Chantal Dupuis-Dunier nous l'a dit. Alors un dernier extrait peut-être du Stabat Mater de Jenkins avec le Vidit Jesum in Tormentis. Finalement, nous allons terminer, je préfère terminer sur cette musique et sur un autre petit poème, hein, avant de reprendre le recueil qui s'appelle Kronce, que j'avais déjà commencé d'ailleurs. Donc je vais terminer avec simplement, pour annoncer Kronce, ce poème sur la journée 302, donc, qui est une intervention de Chantal Dupuis-Dunier au sein donc, de l'histoire de Sadako, où elle dit « Notre maison est une île au milieu du village, notre maison est une île au milieu de la neige, qui justement cette maison, c'est cette maison de Kronce dont elle nous a parlé déjà dans des missions précédentes. Hein. Une maison qui lui permet peut-être d'échapper à la dure réalité et qui apparaît ici dans Mille grues de papier, peut-être comme un îlot où Sadako aurait peut-être pu se préserver de la mort, mais cela n'a pas été possible. Donc voilà, je termine cette émission consacrée à Mille grues de papier et je vais bientôt aborder dans Kronce, dans la prochaine émission. Voilà, c'était La Voix des Poètes, Radio Altitude, Claire Demange.
Of cheer.